écoutez Radio J, il est 11h.
Et tout de suite, on retrouve le journal d'Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous.
Alors, à la une de l'actualité, bien sûr, le 76e anniversaire de l'indépendance d'Israël, un Yom HaAtzmaout marqué par la guerre, toujours en cours, contre le Hamas.
Et aussi par ces massacres antisémites commis le 7 octobre et par le souvenir et les pensées pour les 132 Israéliens qui manquent à l'appel, 132 otages toujours retenus par le Hamas. Pour la première fois de l'histoire d'Israël, la cérémonie officielle hier soir n'était pas en direct. Un pays en deuil, Israël, et en guerre, qui célèbre un 76e anniversaire qui est aussi traditionnellement une fête. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk.
L'un des flambeaux a été allumé par la soldate Uri Megedish, qui était otage 27 jours dans les geôles du Hamas. Un autre flambeau a été allumé par Iris Raïm, dont le fils, otage à Gaza, a été tué par erreur par les forces israéliennes et qui depuis fait montre d'une impressionnante dignité. Quant aux familles d'otages et aux opposants du gouvernement, ils ont organisé plusieurs cérémonies d'allumage de flambeaux alternatives, l'une d'elles sur la place des otages à Tel Aviv en présence de dizaines de milliers de personnes sous le slogan « Sans otages, pas d'indépendance ».
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, et au vu du contexte, contrairement à la tradition, il n'y a pas eu non plus de feux d'artifice à Tel Aviv et à Jérusalem.
Quant au président de l'État, Yitzhak Herzog, en anglais, il s'est adressé dans un message vidéo aux Juifs du monde entier.
Il a souligné combien ce Yom HaAtzmaout était marqué par d'énormes pertes. Il a évoqué la résurgence de l'antisémitisme qui, dit-il, nous rappelle pourquoi nous nous sommes relevés de la tragédie et avons trouvé la force et la détermination nécessaires pour établir un foyer national, le miracle qu'est l'État d'Israël. Le président de l'État a conclu son message sur ces mots. Puissions-nous continuer à élever la voix et à lutter pour ce qui compte, la libération immédiate de nos otages.
Et ce matin, le Hamas continue d'attaquer Israël à coups de roquettes.
Les sirènes d'alerte ont encore retenti tout à l'heure à Ashkelon et dans les localités avoisinantes. Et sur le front nord, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lui a pris la parole hier soir pour se féliciter de ce qu'il considère comme la revitalisation de la cause palestinienne. Sur le terrain, hier soir, Tzahal l'a annoncé, 5 soldats israéliens en opération à Gaza ont été grièvement blessés ces 2 derniers jours.
Et puis le bilan humain des opérations militaires à Gaza, revu à la baisse. Selon l'ONU, il y a 2 fois moins de femmes et d'enfants palestiniens tués que ce qu'affirme le Hamas.
4500 femmes contre 9500 selon les précédents chiffres, 7797 enfants contre plus de 14 000 selon ce bilan toujours très élevé mais difficile donc à établir avec certitude au vu des combats toujours en cours. Il n'y aurait pas 35 000 morts comme l'indique le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, mais selon l'ONU, 24 686 Palestiniens tués depuis le début de cette guerre.
Et puis la Turquie au chevet des terroristes du Hamas, tout l'Occident les attaque avec toutes sortes de munitions, selon le président Erdogan.
Ankara, qui a choisi de communiquer hier sur le nombre de terroristes du Hamas soignés en Turquie, ils sont 1000. Hier encore, le président Erdogan a affirmé qu'appeler le Hamas une organisation terroriste serait cruel. Des propos tenus aux côtés du premier ministre grec lors d'une conférence de presse. Le président turc s'est senti obligé de rappeler qu'ils ne sont pas d'accord sur le sujet.
Dans l'actualité internationale, Washington annonce l'octroi d'une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine dans les prochains jours.
Selon le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, les États-Unis font tout leur possible pour fournir des armes à l'Ukraine qui fait face à l'ouverture d'un nouveau front au nord de Kharkiv.
Et en France, une manifestation d'extrême droite avec des militants néo-nazis dans les rues de Paris ce week-end.
Notamment à l'appel du GUD, anti-sioniste et antisémite. Le préfet de police avait interdit cette marche, mais la justice a fini par l'autoriser. Éric Ciotti le dénonce, tout comme les positions de LFI. Le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, ce matin sur Radio J avec Christophe Barbier.
Moi, je dis que la question de la dissolution de la France insoumise est posée, parce que ce parti ne peut pas continuer continuer à semer la haine, à propager la haine, à instrumentaliser ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et à développer des propos qui ont des conséquences extrêmement fortes.
Le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, ce matin à 7h45 sur Radio J avec Christophe Barbier, vos barbiers du matin qui sont à retrouver sur radioj.fr et sur notre compte YouTube.
Radio J.
Jusqu'à 22h, c'est Classico.
Tête de pierre, papier.
Steve Nadjar.
Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico. Au menu du soir, le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain. La direction du club a-t-elle manqué à ses devoirs en ne rendant pas d'hommage particulier au meilleur buteur de son histoire? Ce sera le premier débat du soir. On reviendra également sur la course à l'Europe. Monaco a déjà son ticket pour la Ligue des Champions. On verra ce qu'il en est pour ses poursuivants, notamment pour l'OM et Lyon. Vous retrouverez également vos rendez-vous habituels dans Classico, le Classique KO, le match des légendes et le Super Quiz. Voilà pour le sommaire. Il me reste à vous présenter Cassim du soir. Il a autant vibré sans doute pour la dernière de Kylian au Parc des Princes que pour celle de Michel Montana, le sprinteur du PSG. Bonsoir, Benjamin Krief.
Merci Steve, bonsoir à tous. Michel Montana va énormément nous manquer. Ouais. Il est remplacé par Max.
Ouais, on va en parler peut-être tout à l'heure.
Il va beaucoup nous manquer, c'est vraiment la voix.
T'as un souvenir en tête de Michel Montana?
Non, mais c'est
Montana.
La voix qui est associée au Parc des Princes depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant et que j'ai été au Parc des Princes pour la première fois à 8 ans. C'est la voix de Michel Montana que j'ai dans les oreilles avec la musique de Phil Collins. C'est associé, tout ça est associé dans mon esprit d'enfant que je suis encore.
Et j'ai appris tout à l'heure que c'était lui l'inventeur de Ici c'est Paris.
Ah, et bah écoute, je ne savais pas.
C'est un des rares speakers à être connu.
L'invité, on ne sait pas qui est l'invité,
mais il intervient déjà. Te rends compte.
David. Oui. Bonsoir David.
Bah, déjà, merci de me recevoir. Voilà, merci beaucoup.
David. Oui. Je vais te présenter comme l'économiste en
le
chef.
Le financier. Oui, absolument.
Un collab sur la question de valorisation des clubs, des stades. Bon, ce sera pour la fois prochaine, David. Un mot sur Michel Montana.
Ah oui, non, mais c'est un des seuls speakers d'ailleurs dont on connaît l'identité. Donc ça veut dire beaucoup.
C'est celui de Lens aussi qui est...
Anne-Sophie Roquette, qui était à Lille et à Lens et à Valenciennes, me semble.
C'est lui qui avait été remplacé par le jeune garçon l'année dernière, dans une séquence assez sympathique. David, ton image du week-end?
Mon image du week-end, c'est la victoire d'Arsenal à Manchester United. Et mon image, c'est un chiffre. Man City a perdu 11 matchs sur les 3 dernières saisons. Manchester United en a perdu 13 cette saison. Je pense que ça dit beaucoup du fossé entre les deux clubs de Manchester qui se creuse d'année en année et de saison en saison. Bon courage Ineos.
Notre invité du soir est le co-rédacteur en chef du dernier SoFoot consacré au footballeur originaire d'Île-de-France, de Thierry Henry à Kylian Mbappé, en passant par Paul Pogba et Wissam Ben Yedder. Lucas Duvernay-Coppola est notre invité. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Pourquoi tu n'étais pas d'accord tout à l'heure?
Parce que même Montana le dit, que ici c'est Paris, il a entendu ça dans les tribunes du parc. En fait, c'est les Supra Auteuil, un groupe du virage Auteuil pré-Plan Le Prou qui avait inventé ça. Et Montana reprend ça. D'ailleurs, il y avait une bataille juridique entre eux et le PSG, parce que le PSG voulait reprendre ça, le mettre sur des maillots, des écharpes. Les Supra voulaient pas vendre le truc. Enfin, ça s'était réglé au tribunal. Enfin, une espèce d'histoire un peu dingue à la Paris Saint-Germain, en fait.
Il a écrit maintenant ce slogan en haut sur le stade. Tu l'as écrit, ouais.
Quelle est l'image devant laquelle tu as vibré
Moi, c'est un match de foot italien. Je suis d'origine italienne. Et donc, c'est la célébration du 50e Scudetto de la Lazio de 1974, lors de Lazio Empoli, où il y avait les héros de ce premier Scudetto de la Lazio qui soulevaient péniblement des drapeaux devant le virage. C'était des vieux hommes, en fait, quoi, qui avaient du mal à soulever ces drapeaux devant des jeunes. Enfin, une espèce de transmission que j'ai trouvé très émouvant.
C'est ton club préféré, Lazio?
Non, je suis pour le Paris Saint-Germain, mais j'aime bien quand les légendes se transmettent de génération en génération.
Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos chaînes Facebook et YouTube. Merci à vous de partager nos contenus, notamment sur X et Instagram. Classico, saison 4, épisode 116. C'est parti.
Radio J.
Radio J.
Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar.
Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que, voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines.
Quelle surprise. Vous avez reconnu la voix de Kylian Mbappé qui s'exprimait dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, et c'est important, vendredi dernier, pour annoncer officiellement son départ du Paris Saint-Germain. Un départ dont le premier signe s'est manifesté hier soir avec son ultime match sous les couleurs parisiennes au Parc des Princes. Un match conclu par une piteuse défaite face à Toulouse sur laquelle nous reviendrons. Un match surtout marqué sans doute par un hommage façon minimum syndical par le club parisien. Avant de vous entendre autour de la table, on réécoute ce qui s'est passé hier aux alentours de 23h30 au Parc des Princes.
Et Kylian, le club souhaite remercier le numéro 16 qui quittera le club à la fin de la saison. Kylian a porté les couleurs parisiennes pendant 16 saisons. 14 titres et en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. Kylian, le club te remercie ici une dernière fois pour votre numéro 7.
Vous avez reconnu cette fois la voix de Michel Montana. La direction du Paris Saint-Germain a-t-elle manqué de classe hier soir? Est-ce une polémique de rien du tout? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord et c'est vous, Lucas. C'est toi, Lucas, qui va les départager. C'est l'heure du Classique Chaos.
Radio J.
Serrez-vous la main et que le meilleur gagne.
On y va, tu vas prendre une leçon, fiston.
Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce.
Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO.
Radio J.
Pour toi, Benjamin, ce qui s'est passé hier soir n'est pas si grave, alors que David, tu considères qu'il y a des choses à dire et à redire sur la manière dont la soirée s'est déroulée. Lucas, c'est toi qui les départagera. On commence avec toi. Tu as 30 secondes, Benjamin.
Merci, Steve. Écoute, non, en fait, je suis même très agacé des commentaires qui sont diffusés depuis cette soirée. J'en ai marre qu'on critique le club, j'en ai marre qu'on crache toujours sur le PSG, peu importe ce que le club fait. La soirée, elle s'est passée comme elle s'est passée. On a eu les avoirs de Kylian Mbappé. Il a eu son but, il a eu son moment face aux supporters, il a eu son tifo, il a eu son moment de partage avec eux. Voilà. Est-ce que le club aurait pu faire plus? Sans doute. Si tu regardes dans le passé les adieux qu'ont eu les autres joueurs, tu n'as aucun joueur qui a quitté le Paris Saint-Germain au sommet de son art et qui a eu le revoir qu'on aurait peut-être imaginé pour le Paris Saint-Germain. Tu ne quittes pas le Qatar, ça ne se fait pas. Et ils te le font payer, c'est tout, voilà. Point final.
Mais c'est bien ça le problème. Parce que le problème, c'est que le PSG individualise et personnifie son recrutement depuis l'arrivée du Qatar. Alors, c'est le Trocadéro pour Ibra, qui lui a été bien célébré. C'est la Tour Eiffel pour Neymar. C'est Keylor Navas qui est recruté en grande pompe. C'est Kylian Mbappé qui est recruté en grande pompe. C'est Marco Verratti, le petit hibou, qui est mis en avant. Mais il n'y a pas un joueur star à part Ibra qui est parti en bon terme, qui a été célébré correctement au PSG. La différence entre l'arrivée et le départ est quand même complètement choquante.
Temps additionnel, Benjamin.
Ouais, David nous parla des arrivées des joueurs et non pas des départs. Moi, encore une fois, hier, la soirée que j'ai vu de l'histoire, j'ai vu des anciens joueurs, j'ai vu les intendants, j'ai vu Michel Montana et j'ai vu effectivement Mbappé. Voilà, encore une fois, tirons un trait, passons à autre chose, arrêtons de critiquer ce club.
David ?
Ah non, mais moi, j'ai rien à rajouter. C'est-à-dire que au PSG, c'est complètement incohérent. Les joueurs sont recrutés, l'institution se met à plat ventre quand les joueurs sont recrutés, et quand les joueurs partent, ils partent soit en paria, soit en catimini. C'est bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est bien que...
Lucas Duvernay Coppola.
Je suis d'accord avec David. Moi, je trouve ça déprimant, cette propension qu'a le Paris Saint-Germain à foirer les adieux ou les au revoir de ses plus grands joueurs. Enfin, le type est quand même le plus grand buteur de l'histoire du club. Part en étant à moitié sifflé par une partie du public, avec un club, tu comprends pas très bien la guerre entre lui, Nasser, etc.
Qui n'a pas cité et remercié.
Qui n'a pas cité. C'était un peu la même chose avec Cavani, qui est parti en tant que meilleur buteur de l'histoire du club. Je trouve ça fou, ce club qui a quand même une histoire récente, qui est pas capable de surfer sur l'histoire qu'il est en train de se créer maintenant. Je trouve ça déprimant, en fait.
Est-ce que la comparaison n'est pas également douloureuse quand on regarde la période avant Ante-Qatari, avec les départs, je ne sais pas, par exemple, de Rai?
Mais oui, mais je sais qu'on en a parlé ensemble par message interposé, mais ce temps-là, il est révolu. Quand tu me parlais de Rai, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est pas mais possible. Tu ne peux pas voir un joueur en larmes. Non, mais c'est plus le même PSG. Et là où je te rejoins, c'est qu'il n'est plus construit de la même manière. Il est beaucoup plus dans l'individualisme, et les joueurs le sont. Quand t'entends.
Mais justement,
c'est
l'individualité.
Justement,
mais c'est dans l'individualité. C'est là où c'est ce que je disais. C'est quand même hier, on a vu un effort. fort. Encore une fois, on a vu Michel Montana, on a vu les deux intendants donner le. Donner...
Qu'on non, salut comme non, on mais... fait avec tous les joueurs en rappelant qu'il est le meilleur buteur de
côté,
l'histoire.
Mettons de côté Montana. T'as les deux intendants qui viennent donner le coup d'envoi avec le club. T'as Menez et Sacco qui viennent remettre le trophée. T'as un clip où tu vois l'histoire.
Beckham a été célébré. Il a joué 10 matchs.
Beckham, encore une fois, il s'en va. Mais c'est du marketing, Beckham. Il a marqué qui, Beckham, dans l'histoire parisienne? Zéro. Il a marqué personne.
C'est ce que je
reproche. C'est du marketing, tu le sais très bien.
C'est le grand écart entre un club qui se définit par ses individualités et qui, à la fin du chemin, ne sait pas leur dire au revoir.
Mais c'est contradictoire ce que tu dis, parce qu'encore une fois, hier, je trouve que on n'est peut-être pas dupes. Ils ont essayé, je trouve, de placer le club avant Mbappé. Encore une fois, en insistant sur le speaker, sur les intendants, sur l'histoire. Et donc, on peut pas leur reprocher.
C'est l'histoire du PSG.
Mais bien
et
sûr.
Ça a été l'histoire.
Mais évidemment.
Non,
mais attends, il a eu son moment face aux tribunes.
Mais qui n'a pas été organisé par la direction.
D'accord, mais qu'ils ont laissé faire, évidemment. Ils sont bien au courant de ce qui va se passer. Ils lui laissent la possibilité d'aller voir les. Tu vois, pendant l'échauffement. On sait très bien que c'est fait. Et t'as ce petit mot de Michel Montana. Oui, sincèrement, peut-être que ces trois mots-là, je pense qu'ils devraient même pas exister parce que eux, ils sont assez pathétiques pour le coup. Mais voilà, sinon, la soirée me choque pas.
Lucas,
quoi.
Qu'est-ce que tu aurais aimé voir?
Excuse-moi, juste pour rebondir sur Lucas, après je donne la parole. Lucas, t'as dit, ils foirent leurs adieux. Mais je sais pas, c'est une question de foirer. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent rien d'autre.
Oui, ça, on est d'accord.
Le club ne veut rien d'autre que ce qui s'est passé hier soir.
Auquel cas, c'est très réussi.
Non, mais tu vois, c'est pas, ils veulent faire quelque chose qui est raté.
Non, bien sûr.
Ce qu'ils nous ont montré, c'est ce qu'ils font.
Ouais. Non, moi, ce que je regrette, c'est cette capacité, je trouve, à. C'est que l'histoire, tu es en train de l'écrire, le Paris Saint-Germain est un club jeune, etc. Et je trouve ça fou de transformer tes héros, enfin, de tirer des balles dans les pieds de tes héros. Alors qu'on devrait tous être super contents. Enfin, je veux pas faire cocorico. On a eu le meilleur joueur du monde dans notre club, etc. Je veux pas chanter cette chanson là, mais je trouve que, enfin, je trouve ça fou que Kylian Mbappé quitte. T'as l'impression qu'il quitte le club par une petite porte.
Mais parce qu'il y a pas d'affect dans ce club. On va en parler après sur le football en Île-de-France. Mais les titis ne sont très rarement mis en avant, ou alors trop mis en avant de façon spectaculaire comme Zaïre Emery. Mais il y a pas d'affect, il y a pas de cœur, il y a pas de sentiment dans ce club. C'est-à-dire que on est avec moi ou contre moi. La sortie.
Comment ça se passe dans les autres clubs? Je sais pas, en Angleterre, que tu suis particulièrement, David, quand un grand joueur quitte, non pas que, et lorsque ça s'accompagne de sa fin de carrière, mais en, je sais pas, Cristiano Ronaldo, par exemple, lorsqu'il a quitté Manchester United pour rejoindre.
Bah, Cristiano Ronaldo, il est parti, Manchester, qui est une vraie institution, il est parti, en accord avec Ferguson. Il voulait aller au Real un an avant, il s'est mis d'accord, il a dit non, reste, j'ai encore besoin de toi. Il est resté un an. Idem pour Henry. Idem pour Vieira. Et il y a surtout cette culture de ce qu'ils appellent le testimonial, c'est quand on a joué 10 ans, on a le droit à son jubilé et le fruit, la recette du jubilé revient aux joueurs. Initialement, c'était fait pour des joueurs qui n'avaient pas énormément d'argent, en fait, pour qu'ils aient un complément de retraite. Maintenant, c'est donné à une œuvre de charité. Mais on n'a pas ça en France. On n'a pas cette culture du jubilé.
Mais ça dépasse même le stade. Quand je vois la fête du titre au Real Madrid, dans les rues de Madrid, avec le public. Les joueurs sont sur un bus avec Ancelotti qui fait la fête. À Paris, ça n'existe pas.
Ils se disent que c'est pour des questions de sécurité.
Si tu prends un bus. Je suis parisien, je suis abonné et autre. Si tu vois, une fête comme ça n'existe. Je n'ai pas le souvenir d'une fête comme ça qui existe à Paris, sauf quand ils ont gagné la Coupe d'Europe. Donc, je pense que c'est une culture qui est différente aussi dans notre manière, nous, français, parisiens.
Juste pour français devant le foot. Dans ce débat, toi, tu étais fan de Serie A, je suis sûr que tu t'en souviens. J'ai revu les adieux de Papin. Autre temps, autre époque. Très similaire dans le profil. Ballon d'or, meilleur avant-centre européen, joueur qui n'est pas formé au club, mais qui s'est révélé de son départ de l'OM. Mais c'est d'une telle fraîcheur.
Mais c'est un autre football.
Mais c'est terminé. D'une telle fraîcheur. Mais tu peux le faire. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire?
Tu parles juste de terminer. C'est pas aussi à l'évolution des supporters. C'est-à-dire au Parc des Princes, on a autant de supporters.
Mais Pascal Mbappé, en faisant une vidéo, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les supporters, sauf ceux qui vont au stade. Alors que, il y a 20, il y a 30 ans, quand tu prenais le micro, quand Molta prend le micro, il s'adresse à qui? À ceux qui sont là toutes les semaines. Mbappé, en prenant une vidéo, il s'adresse à tous ceux qui regardent. À tous ceux qui ne vont pas au stade.
Mais après, il va dîner, on va faire un barbecue.
C'est ridicule, ça.
Mais peut-être, c'est pathétique. Mais peut-être. Mais ça permet d'inclure les supporters historiques du club et ça lui permet après d'avoir son tifo hier soir.
Lucas, qu'est-ce que tu aurais aimé voir hier soir? Je reviens à cette question.
Qu'est-ce que j'aurais aimé voir Je sais pas, j'aurais aimé voir un truc.
Une compilation de ses plus beaux buts, commenté par M. Je sais pas, quelque chose qui aurait duré plus longtemps peut-être, où il aurait pu s'exprimer longuement.
J'aurais aimé voir quelque chose. En fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand chose de sincère, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a cet extrait sur les réseaux sociaux où on voit le capot du CUP insulter un gamin de 10 ans, qui est vraiment un truc un peu glaçant. Et quand Mbappé arrive devant le virage, t'as une partie des gens qui le sifflent. Enfin, une espèce de truc. T'as l'impression, du coup, ça donne l'impression que le virage est pour Mbappé, un peu pour faire chier le président, un peu parce que il y a des liens avec le joueur, un peu tout ce que.
C'était un peu risqué finalement, si on avait organisé quelque chose de plus long que voir une partie du stade le siffler.
Et qui sont les gens qui sifflent Mbappé au stade? Je ne sais pas. J'étais pas au parc hier.
C'est une bonne question.
Le cup est avec le joueur visiblement. Ils ont fait un barbecue avec lui, ils lui ont fait un tifo. Ensuite au parc, pour y aller souvent, autour tu n'as plus que des touristes qui viennent voir Mbappé. Mmh. Donc je ne comprends pas qui sont les gens qui sifflent.
J'ai absolument aucune idée, mais
qui sont,
c'est quand même la conclusion d'un an, deux ans, d'un mariage qui a beaucoup trop duré, d'un couple qui aurait dû se séparer il y a bien longtemps.
Il aurait dû quitter le club la saison dernière.
Mais même la saison d'avant. C'est-à-dire, il aurait jamais dû prolonger. Là, c'est l'été dernier, c'est un couple qui s'est en public, qui s'est envoyé des assiettes à la figure, à part lettre d'avocat. Enfin, tu dois connaître ça. On a vraiment marqué chronologiquement, juridiquement le divorce en disant je vous annonce que je ne vais pas prolonger. Et bah dans ces cas-là, tu vas être mis dans un loft. Et bah au final, si tu veux revenir, il faut que tu renonces à tes primes d'éthique. Très franchement, c'était complètement pathétique. Donc, résultat, il n'a pas fait la tournée au Japon, il n'a pas une préparation, et on le voit. On l'a vu contre Dortmund, que peut-être qu'il n'avait pas les jambes, il n'avait pas l'explosivité pour arriver en condition optimale lors des grandes rencontres.
Ça, selon toi, c'est lié à sa préparation.
C'est pas immédiatement lié, mais très franchement, on le voit qu'il est moins en jambes, il a moins de coups de rein, il est moins véloce, ouais, il fait moins d'efforts.
Après, là-dessus, sur hier, les torts sont quand même partagés, parce que lorsque tu fais ta fameuse vidéo,
mais les torts sont partagés.
Et que tu n'as pas un mot ni pour le président, ni pour.
Mais il fait cette vidéo pour ne pas citer le président. Oui, le seul intérêt des 3 minutes 50, c'est de ne pas citer Al Khelaïfi.
Mais il n'est pas publié par le club, par ailleurs. Ça fait opération individuelle.
Je veux dire, tu te doutes bien que derrière, quand tu fais ça et tu mets un tel affront au président et à l'ensemble du Qatar, j'ai envie de dire, qui te paye grassement quand même depuis des années, tu te doutes bien qu'ils ne vont pas te faire un podium hier soir. Donc
ça,
voilà.
Ça ne se passera pas comme ça avec Florentino Pérez. Le Real Madrid étant le club qu'il est, ben on va voir la différence, je pense.
À ton avis, qu'est-ce que pense le Real Madrid, sa direction, lorsqu'ils suivent les derniers mois de cette fin de relation entre le Paris Saint-Germain et Mbappé?
Je pense qu'ils pensent plus de mal du Paris Saint-Germain que de Kylian Mbappé. Et je pense que le Real Madrid, étant le club qu'il est, il va dire à son joueur, c'est très bien, tu t'es bien amusé dans ce petit club, maintenant t'es chez nous, calme-toi mon garçon.
Mais c'est insoluble, en fait, j'ai l'impression, quand je t'écoute. Oui. Parce qu'on dit, côté Real Madrid, on se moque du PSG.
Je vois pas comment on peut pas ne pas se moquer du PSG.
Mais hier, encore une fois, évidemment qu'il faut avoir du recul. Hier, j'ai l'impression que le club essaye de montrer que c'est le club avant tout, justement. Et on ne veut pas mettre en avant une individualité.
Une individualité à qui t'as donné les clés ou t'as laissé jouer.
C'est
insoluble.
Real, Pérez, El Khelaifi, c'est aussi deux blocs qui s'affrontent. C'est la guerre froide. C'est Super League, UEFA. C'est-à-dire que cette prise de guerre, elle est encore plus importante que la prise de guerre de Neymar au Barça. Là, c'est vraiment la guerre froide. Il y a le partisan de la Super League qui veut faire sécession de l'UEFA contre celui qui n'était pas forcément prévu dans la Super League initiale, donc qui s'est lié, qui s'est rejoint à l'UEFA. Cette prise de guerre, elle est massive, elle est énorme.
Pour conclure sur l'histoire, quelle place, Lucas, on va commencer avec toi, occupera à tes yeux Mbappé dans le panthéon des plus grands joueurs de l'histoire du PSG? C'est le plus grand parce que c'est le meilleur buteur, nécessairement?
C'est une vaste question. Le football étant une affaire de sentiments et pas que de statistiques, moi je suis toujours orphelin de Jadja Jokocha. Or, j'ai appris en grandissant qu'en fait il avait été un peu nul lors de son passage au club. Mais enfin,
il a été un peu nul.
Il a été meilleur à Bolton qu'à Paris, ça dit beaucoup.
Il a été meilleur sur la fin, j'ai pas aimé
à la hauteur de ses performances. Ouais. Mais en même temps,
il a sorti une Coupe du Monde exceptionnelle en 98.
Mais peu importe, son premier match, il rentre à Bordeaux, il met un but du milieu de terrain, point final, ça y est, c'est terminé.
32 ou 36 secondes.
La légende est née, c'est fini.
Et bon, voilà.
J'étais au stade. J'étais derrière le but de Ramé. J'ai cru que j'allais me prendre le ballon dans la tête, en fait, tellement il allait la frapper fort. D'ailleurs, Ramé, sur le but, il se protège. Il est comme ça. Revoyez le but, il se protège, vraiment.
Mais je sais pas, je vois déjà le football est volatile aussi. Là, je sais pas, dans un an, quand ça sera fini, Mbappé, il a plein de défauts, mais il a quand même porté l'équipe pendant. Moi, je vais le regretter, en fait. Enfin, je fais partie des gens qui. Je trouvais ça ouf que ce mec-là joue ici, qu'il soit francilien et qu'il joue au Paris Saint-Germain. Et bah, je sais pas, pour moi, c'est le meilleur buteur du club. Et pour moi, c'est dingue, en fait. Et je pense qu'on lui a crachait dessus trop tôt et que demain, quand il sera parti, on dira.
Et c'était l'évidence de le mettre à la une de ce numéro spécial joueur d'Île-de-France.
Bah, c'est le francilien ultime en ce moment, hein, de toute façon. Hein, je veux dire, tu parles
c'est
de.
C'est le
football,
français ultime en ce
le
moment.
Le français même ultime, ouais. Mais oui, un peu, oui. Enfin, c'est oui. Qui d'autre?
Il est considéré comme le modèle absolu pour les jeunes footballeurs de 10 ans, 12 ans, 13 ans qui
projet
jouent.
Projet Mbappé.
Trop, oui, trop, de façon beaucoup trop dangereuse d'ailleurs. De façon.
Je crois que c'est Javier Pierre Prieto Santos qui consacre justement un sujet à tout la à ville fait. De Bondy et à ce risque de mirage. Beaucoup de joueurs, beaucoup de familles imaginent reproduire ce modèle-là.
Ouais, ça se passe pas qu'à Bondy, ça se passe un peu partout, mais c'est glaçant. Enfin, quiconque, on parlait tout à l'heure de terrain de foot de la région, quiconque a accompagné un enfant. Faire un match de foot, t'as vu des parents devenir fous et de façon un peu flippante en fait, genre calme-toi, ton fils, ça se voit qu'il va pas devenir Mbappé, c'est pas la peine de l'insulter ou d'insulter l'entraîneur. Mais oui, oui, Mbappé rend fou tout le monde, les parents, les enfants, chacun pense qu'il a qu'il peut devenir le prochain Kylian. Ben non, c'est pas le cas.
On va écouter ce qu'en pense son futur ex-entraîneur Luis Enrique.
Creo que es una afición única e inmejorable.
C'est un public exceptionnel, un public unique.
El merecido premio que tendría es marcharse en el último partido ganando, pero
ils auraient mérité qu'on s'impose, qu'on leur fasse plaisir pour le dernier match.
Es un jugador y una persona excelente y
Kylian c'est un joueur exceptionnel, c'est surtout une personne exceptionnelle.
Pero le deseamos la mejor de las suertes.
Et on lui souhaite la bonne chance.
Luis Enrique au micro de Prime Video. Est-ce que vous avez compris le choix de l'entraîneur parisien de ne pas faire sortir un peu plus tôt, avant la fin du match, son joueur pour.
Je sais pas, pareil, je pense vraiment que c'est une polémique absolument inutile. Son hommage au public, il l'a eu avant le match, avait face au club. Voilà, bon, enfin, encore une fois,
C'est classique de voir sortir un joueur qui a quitté le club quelques minutes avant la
règle,
fin.
Il n'y a pas de règle écrite qui dit qu'il faut sortir le gars. Il avait déjà eu son ovation avec le public avant l'échauffement. Pendant l'échauffement. Bon, voilà, franchement, enfin, ça me paraît vraiment, encore une fois.
Pour vous, c'est rien.
Attends, je conclue là-dessus. Je trouve que ce club, vraiment, QSI, ce club sous la bannière QSI, j'ai l'impression qu'en France, il ne peut pas être aimé. On ne veut pas aimer ce club pour plein de raisons. Mais tu vois, typiquement, n'importe quoi que va faire ce club, je pense qu'on n'adhérera jamais. Et moi, je trouve ça terrible. Le fait qu'on perde Mbappé, c'est pas que le problème du Paris Saint-Germain. C'est quand même le problème de tout le football français. C'est tout le football français qui est quand même moins attractif. Donc moi, je trouve que on devrait tous être concernés et tous tristes. Mais bon, après, je te laisse répondre sur est-ce que c'est grave.
Moi, sur la sortie, c'est pareil. Là, pour le coup, je rejoins ce que dit Benjamin. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Je pense, par ailleurs, que ça leur aurait foutu mal qu'ils sortent sous une partie du public qui siffle. Enfin, pour le coup.
C'est un vrai risque, ça.
Bah, j'ai l'impression, en tout cas, vu l'échauffement.
L'image aurait été terrible.
Je sais pas qui sont ces gens,
pour la Ligue 1.
Je pose la question pour lui. Si on a la réponse, je sais pas qui
sont ces gens. Même pour la Ligue 1 internationale, voir Mbappé sortir avec la moitié du. Ou un tiers du stade qui siffle, c'est quand même pas
le financier est à ma droite. Il peut nous dire. Non, mais vraiment, je te pose la question. C'est quoi la conséquence économique pour la valorisation du championnat de France de l'absence d'Mbappé?
Bah, en fait, j'ai envie, si j'étais un peu provocateur, je te dirais aucune, puisque de toute façon, les droits n'ont jamais été cédés à la juste valeur. C'est-à-dire que t'as toujours eu une partie liée qui a détenu les droits de la Ligue 1. T'as eu Canal qui détenait le PSG. Ouais. T'as eu Bein qui détenait, qui était indirectement actionnaire du PSG. T'as eu Mediapro qui a promis 1 milliard, qui a jamais délivré. Donc Canal est revenu. Donc en fait, si tu veux,
et Bein qui pourrait faire son retour,
et qui pourrait faire son retour
la totalité.
Pour récupérer la totalité, un montant
et des droits à l'international aussi.
Et des droits, bien évidemment, des droits à l'international. Donc en fait, la Ligue 1, ce que ça vaut, bah j'ai envie de te dire 500 millions puisque c'est l'offre que DAZN l'offre la plus haute que sur un marché libre que DAZN a faite.
Mais avec ou sans Mbappé, c'est pas le même prix.
C'est pas le même prix, mais ça vaut pas grand chose. De
mais
toute
c'est
façon.
C'est pas le même prix.
Je suis pas du tout sûr, en fait, si tu veux. Je suis pas du tout sûr, puisque peut-être que c'est pas le même prix, mais en tout cas, avec ou sans Mbappé, ça vaut pas grand chose. Ça vaut pas grand chose.
Ça vaut peut-être encore moins sans lui.
Oui.
Ça va dépendre aussi du recrutement.
Certainement.
Sans doute.
Certainement. Mais très franchement, il y a une question aussi d'écrasant pouvoir, économique. C'est-à-dire que c'est un championnat qui est joué d'avance. C'est le championnat le plus irrégulier, le plus inégalitaire entre le premier et le second. On est sur un ordre de 4 en dépenses de transfert, de masse salariale.
Ouais.
Le deuxième plus inégalitaire, c'est la Liga. C'est on a un ordre de 2, en fait, entre Barça, Atlético, Real, Atlético, Real, Barça. Le reste des championnats, c'est un multiple d'un 1.5 entre le plus dépensier en masse salariale en transfert et le second plus dépensier. Je pense ça, que c'est le problème, il est aussi là.
Mais c'est pas le PSG qu'il faut le reprocher, ça. Les autres clubs ont qu'à, tu vois, ont qu'à
trouver des partenaires à la hauteur.
Mais il faut que Marseille ait qu'à se faire racheter par l'Arabie Saoudite, et puis ça sera super pour tout le monde.
C'est facile de dire.
Et puis notre ami américain Lionel, il a qu'à mettre de l'oseille, j'en sais rien, moi. Non, mais tu peux pas reprocher au Paris Saint-Germain. Non, mais tu peux pas reprocher au Paris Saint-Germain d'être un club.
Ah non, moi je le reproche pas, moi je reproche qu'on les ait fait rentrer. Moi je reproche qu'on les ait fait rentrer.
Mais du coup,
je reproche pas ce qui dépend, je reproche qu'on les ait fait rentrer. Et que ça participe au manque d'attractivité de la ligue.
Quoi notre championnat sans le PSG Qatari, ce serait quoi aujourd'hui?
Mais c'était quoi quand c'était Lyon? C'était quoi quand c'était Bordeaux? C'était pas moins bien? C'était moins regardé quand c'était Bordeaux, c'était moins regardé quand c'était Lyon. Quand on avait un champion tous les ans, on faisait des demi-finales de Coupe d'Europe, on faisait des quarts de Coupe d'Europe, on avait le même indice UEFA, on avait des joueurs corrects dans toutes les équipes.
Messieurs, nous sommes rejoints par notre premier auditeur du soir dans Classico. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Steve.
Et
bonsoir,
merci d'être avec nous. Comment as-tu trouvé la soirée d'hier soir? On reprend en résumé les thèmes qu'on a, les questions qu'on a abordées jusque-là avec nos chroniqueurs et notre invité Lucas Duvernay-Coppola. Est-ce que tu as été déçu par ce que tu as vu hier soir au Parc?
Pas du tout. Pas du tout, parce que je trouve que la fête qui lui a été octroyée, notamment par le Cup, est à la hauteur en fait de la vidéo qu'il a fournie pour annoncer son départ. Au lieu de faire une conférence de presse en mettant le club dans la confidence, parce qu'a priori en plus j'ai lu qu'il avait prévenu personne qu'il l'a fait de son propre fait. Après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas sa vidéo.
Je crois que Luis Campos avait été mis au courant, ce que j'ai.
Ah c'est étonnant, l'équipe.
Ça paraît. Voilà, moi je trouve que je suis pas déçu par la soirée d'hier. Elle est à l'image de ce qu'Mbappé a fourni jusqu'à présent.
Je pense que son départ va faire du bien au collectif parisien l'année prochaine, comme semble le sous-entendre parfois Luis Enrique.
Alors, je pense que de toute façon, Luis Enrique, vu qu'ils sont au courant depuis un certain temps, a préparé l'effectif. Et j'avais déjà eu l'occasion d'en parler les dernières fois, a déjà eu l'occasion de préparer son effectif et le club à vivre sans Mbappé, notamment en le faisant sortir, en le mettant sur le banc certaines fois. Donc, pour moi, je pense que aujourd'hui les choses sont actées et que l'année prochaine, le départ d'Mbappé, je suis pas certain que ça fasse beaucoup de mal à l'équipe, si ce n'est sur le côté qualitatif. Mais après, sur le côté environnement et vie de l'équipe, je suis pas certain que ça fasse grand-chose.
Ben après, je vais arrêter parce que faut peut-être que je change de disque, mais je ne comprends pas qu'on puisse dire aujourd'hui que le PSG sera pareil. C'est pareil, en fait. On perd l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps. C'est quand même ça, Mbappé. C'est pas juste.
Je ne dis pas que c'est pareil. Je dis juste que le départ d'Mbappé ne va pas faire que le club va s'éteindre.
Mais ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il sera moins fort? Bien sûr que oui.
Donc, je ne suis pas en train de dire que le départ d'Mbappé ne fera rien du tout. Je parle que certainement, d'un point de vue qualitatif, on perdra quand même un des meilleurs joueurs de notre histoire. Ça, c'est un fait.
De tous les temps.
On ne peut pas dire que le club va s'arrêter. Et que, si ça se trouve, voilà. Je ne sais plus quel joueur qui disait... Quel membre du club qui avait dit ça. On avait gagné sans Mbappé à l'époque, et toutes les équipes qui ont gagné la Champions League jusqu'à présent l'ont gagné sans Mbappé. Mais il a raison.
Mais bien sûr,
c'est Leonardo qui avait dit ça. Mmh.
Mais ça, on est d'accord.
C'est Leonardo, exactement, merci. Donc voilà. Donc, dire qu'on s'en fout que Mbappé s'en va, c'est pas vrai, mais ça ne fera pas non plus chuter l'équipe.
Qui serait ton favori pour lui succéder l'année prochaine, la saison prochaine?
Pourquoi j'ai pas entendu, pardon?
Quel serait le joueur qui serait ton favori pour succéder à Mbappé à la pointe de l'attaque la saison prochaine à Paris?
Pour moi, il faut donner sa chance à Gonçalo Ramos.
Donc pas de star, vous pensez aussi ça pour vous?
Non, évidemment que le Qatar va ramener un autre joueur. Ils peuvent pas.
Peut-être pas au même poste.
Non, mais ils peuvent pas perdre un joueur de cette envergure-là sans en racheter un autre. On peut penser à Osimhen, Léao, on a entendu Bernardo Silva, on a entendu plein de noms.
Osimhen, Léao sont très liés au réseau Campos, donc c'est vrai que ce serait pas étonnant.
Mais c'est pas du poste pour poste.
Non, bien sûr que non, mais bon.
Ils ont dépensé un argent monstre l'année dernière sur le marché des transferts. Là, on a Kolo Muani. Il faut quand même réessayer de lui laisser sa chance. Il n'a pas prouvé cette année. C'est dommage, c'est malheureux. Mais je pense que si on lui donne un peu plus de responsabilité, pourquoi pas, il pourrait exploser. Gonçalo Ramos, pour moi, c'est pareil. Je pense qu'il faut lui laisser du temps de jeu et il faut lui donner de la confiance. On a Barcola, qui n'est pas rien. Il y a toujours Asensio. Alors après, on pourra nous dire, oui, mais c'est pas avec ce genre de joueur qu'on va gagner la Ligue des Champions. Mais encore une fois, il faut se mettre là maintenant dans l'idée de vraiment s'appuyer et renforcer le collectif qu'on a jusqu'à aujourd'hui pour aller le plus loin possible. Après, s'il y a des opportunités à avoir, pourquoi pas? Mais je suis désolé, les noms que j'entends, Raphaël Léao ou Osimhen, moi, ça ne me fait pas rêver.
Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Très bonne soirée.
Bon, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne fin de journée. À bientôt.
Messieurs, c'est l'heure de jouer.
Radio J.
Radio J.
Jusqu'à 22h, c'est Classico.
Radio J.
Steve Nadjar.
Lucas Duvernay Coppola, c'est l'heure du rétro quiz. Nous téléportons vers l'année 1998.
Et parce qu'il connaît tout par cœur. Je pense
nous sommes en avril. Nous sommes en avril 98. Et pour son dernier match avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, Rai affronte l'AS Monaco. Donnez-moi, messieurs, le 11 des deux équipes ainsi que les joueurs entrés en jeu. Le Lucas.
98.
98, c'est l'heure de Ricky Martin, c'est la Coupe du Monde, tout ce que tu veux.
Ah ouais. Sandy Valentino aussi.
Oui. Alors, Lucas, tu veux démarrer écoute.
Dans le désordre.
Que tu veux. Tu veux, on commence avec Paris.
Il me fait peur, lui. S'il l'annonce dans le désordre, c'est-à-dire que le mec est très chaud.
Non, non.
C'est-à-dire qu'il est capable de te les donner dans l'ordre.
Non, non. Lama. C'est lui ou pas?
C'est faux.
C'est faux.
Thierry Henry.
David. On commence avec Paris.
Ah, j'avais pas entendu que tu voulais commencer avec
ouais,
Paris.
On commence avec Paris.
Paul Le Guen.
Paul Le Guen, c'est juste. Premier point pour David.
Bah alors, si c'était pas Lama, c'était. C'était Letizy.
Non.
Oh là.
Merde. Lucas.
C'était Revaux.
Non plus.
Dominique Casagrande.
Non plus.
Ah. Vincent Fernandez.
Oh, oh
papa, c'est deux
nous
points.
Nous faudrait un générique spécial pour les.
Ouais, excuse-moi, Vincent Fernandez, ça se,
beau,
ça se
souligne beau.
Quand même. Il a joué à Vigo, ça va. Il a joué.
Vincent Fernandez.
Ah non, pas Vincent, c'est Revaux. Du Truel.
Du Truel.
Le pauvre. Ah non, c'est pas lui qui est décédé, c'est Luc Bory.
Luc Bory.
Lucas.
Moi, bon, je peux, pour me redonner confiance, je peux faire le roublard et dire Rai ou pas?
Ça, c'est. Ah ouais. Je suis désolé. Bah, c'est un faillot, parce que si nous, on l'avait dit, il n'aurait jamais accepté.
Non, tu l'aurais eu, il est là.
Il n'avait jamais accepté.
Marco Simone.
Marco Simone, ce qui joue ce soir-là, non.
Ça fait deux erreurs.
Non.
Tu nous habitues à beaucoup mieux, David. Hein. C'est très dur. Fais gaffe.
Ah, si, pardon, pardon. Si,
ah, bah voilà.
Pardon. Marco est là.
Excuse.
Pardon, Marco est là.
Florian Maurice.
Florian Maurice, c'est absolument.
Ah, bah.
De partout.
Il y a du niveau ici. Je sais, c'est impressionnant, mais il y a du niveau.
De partout.
Il est encore là, Vincent Guérin, ou pas?
Vincent Guérin. Et là, il est remplaçant, mais il est là. De partout.
Ouais. Jimmy Algerino?
Absolument. Jimmy Algerino est là. Numéro 17 du Paris Saint-Germain.
Mmh,
Benjamin?
Ouais.
Donc on a dit Vincent Guérin. Je bats Rai aussi.
Laurent Fournier?
Laurent Fournier.
Parti.
Laurent Fournier n'est pas là.
Il est parti. Il rentre pas? Non, il rentre pas à la 72e?
Il rentre chez lui, je pense.
Lucas?
Gava est là ou pas?
Oh, Franck Gava est là et il est même titulaire.
Ah ouais, pas mal, pas mal.
Lucas,
pas mal.
Ouais, prends le large.
Ouais.
3-2.
Je vais en tenter un, mais honnêtement, je suis pas sûr. Didier Domi?
Ouais, absolument. Ça sent bon, ça, ouais.
Absolument, il est remplaçant.
Pas mal.
Il est remplaçant, je crois.
Ah, il est remplaçant, donc
c'est pas. Non, il est titulaire, pardon, pas. Non. Il est là, ça fait 3 partout.
Sous-côté, Didier Domi. Bon joueur.
Ouais.
Bon
ouais.
Joueur.
Sous-côté, je ne sais pas, mais.
Alain Goma?
Alain Goma, non.
T'es parti à Newcastle.
Je crois qu'il arrive juste après 99.
Mmh,
je crois que c'est l'année avec. C'est l'année d'après.
Je suis pas loin, je pense. Ouais, t'es pas loin, mais je crois qu'il fait.
Attends, t'as dit Franck Gava, ouais.
Ouais.
Putain, il est pas là. Ah ouais, d'accord.
Bon. En tout cas, il est pas là ce soir. Là. Il faudra à vérifier.
À vérifier.
Bruno Rodriguez.
Bruno Rodriguez, non. Je suis désolé, mais non. Non, Lucas. David.
Ouais, non, pardon.
Alors, il vous manque, messieurs, quand même deux défenseurs importants.
Ouais, d'accord, vas-y.
Il vous manque un milieu et il vous manque un attaquant qui vaudra 3 points, je vous le donne.
Tu dis ça quand c'est à lui? T'as vu comment t'es?
Ah, c'est vrai que ça me chauffait.
Benjamin, tu peux préparer une musique spéciale pour le.
Un attaquant qui vaut 3 points?
Un attaquant qui vaut 3 points. Remplaçant qui rentre à la. Je sais pas.
J'ai envie de le tenter.
Adecton.
Non.
Putain.
Bernard Alou.
Non. Ah, Lucas, tu veux tenter? C'est un joueur qui a une histoire très particulière, très courte avec Paris, mais très particulière. Un attaquant. Jeune
Christian?
Attaquant.
Non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup
jeune.
Moins. Très jeune.
Très jeune?
Ouais.
98?
Ouais. Très très jeune, avec les supporters. Je peux pas en dire plus parce que
non, tu peux pas en dire plus, non.
Avec les suivants. Non, je sais pas.
Attends, mais on peut en dire d'autres du coup.
On peut en dire d'autres. Vous avez déjà un défenseur qui est quand même
Ricardo Roche. Ricardo.
Alain Roche.
Ricardo, non.
Alors.
Ricardo ou pas?
Alors, qui a dit Alain Roche d'abord?
Moi.
David. Donc c'est 2 points pour David qui a 4 points. Ricardo?
Non.
Oui, mais où ça?
Quoi, où ça?
Il est sur le banc, Ricardo.
Ouais.
C'est l'entraîneur. Donc ça marche pas.
Ouais, mais c'est ce que je voulais dire. Quel mytho.
Côté de jouer le bat.
Quoi?
Avec pour adjoint Joël Batz. Quoique non, ils étaient peut-être co-entraîneurs tous les deux.
Non, l'adjoint, je crois. Ouais.
On a dit l'arrière-gauche.
C'est moi, Domi.
Ouais. Il en reste un défenseur central. Qui a joué à Nancy.
Rabé, il a dit Rabé,
absolument. Ouais. Le point pour Benjamin. 3 points. Il vous reste, messieurs, pas grand-chose. Il vous reste un milieu de terrain.
Il n'y a pas offensif, défensif. Non.
Défensif.
Monaco.
Franck Gabriel. Benoît Coué.
Non. Bon, Fabrice Calban, vous ne l'aurez pas trouvé.
Oh là là.
Non, mais ça vaut 5 points.
Vas-y, l'attaquant, ça, tu m'as chauffé là.
Il vous manque un milieu de terrain.
Ok.
Vous voyez ou pas? Il y avait la particularité lorsqu'il courait, moi ça avait marqué quand j'étais au stade, de sa joue gonflée. Je sais pas si vous vous souvenez de ce détail.
Ah, d'accord, tu vas trop loin là.
Non, vous voyez pas?
Ah, tu vas trop loin.
Tard du pro.
Oh putain.
Sa joue gonflée?
Ouais, vous reverrez, il a la joue gonflée lorsqu'il court.
L'attaquant.
Français?
Non. Serbe peut-être.
Ibizevic?
Non.
Un jeune serbe.
Lucas?
Putain, c'est un truc de ouf.
Jeune serbe? Il a laissé quelques mois au PSG?
Ah oui, il était, je crois, formé au club.
Oh, attends, putain.
Edwin Murati?
Non.
Oh, putain, pas mal ça.
Moi, en serbe, c'est après.
C'est Kazman et après. Ouais,
j'ai dit serbe, mais.
J'ai Branko Boskovic, mais c'est bien plus tard.
Oui, je regarde sa nationalité.
Regarde, c'est plus tard.
Mais bon. Non, vous l'avez pas?
Bah peut-être. Attends, il fait quoi après? Il arrête le foot après?
Non, il joue, mais il n'a pas resté très longtemps. Il est bien serbe. Hein.
Mais il va où après?
Il est bien serbe et il va jouer ensuite à Lausanne Sport, au Celta Vigo, au Sturm Graz.
C'est pas une réussite.
Hertha Berlin.
Ah ouais, c'est pas une réussite.
Hertha Berlin, si. Ajax même.
Ajax. Ouais.
Vous l'avez ou pas?
Attends, 2 secondes. Un serbe qui va jouer ensuite à l'Ajax? Franchement, non.
Non?
Non, franchement.
C'est quoi son prénom?
Marco.
Marco. Ah, mais où Marco Pantelic?
Marco Pantelic. Et oui, ça vaut 3 points donc, hein, ça fait 6.
Putain.
Ça vaut. Du côté de Monaco, c'est la Dream Team.
La Dream Team?
C'est la Dream Team.
Ok.
On commence avec qui? Lucas?
Barthez.
Fabien Barthez. David?
Bah, Benarbia.
Ali Benarbia. David? Benjamin, pardon.
J'étais sur Pantelic là.
Pantelic et...
Thierry Henry, tu l'as dit?
Ouais. Bah vas-y, je l'ai
dit.
Il a dit. En premier. Non, je l'ai dit en premier. Vas-y, reprends-le.
Allez, prends-le.
Ouais, Henry, alors, ouais.
Thierry Henry, Lucas.
Trezeguet.
David Trezeguet qui est remplaçant et qui marque. Et qui remplace? Allez.
Ikpeba.
Victor Ikpeba, bien joué.
Le 5 points, Benjamin.
Merci, s'il te plaît.
Merci.
Martin Djetou.
Martin Djetou, absolument. Qui est remplacé par?
Qui est remplacé par? Christian Val?
Non. Et Christian Val est titulaire, je te donne le point. Mais il est remplacé par un Portugais.
Attends.
Rui.
Non. Qui a un deux noms. Enfin, on l'a appelé d'une certaine manière au début, puis.
Adapté.
Vous voyez le joueur?
Costinha. Ouais.
Exactement, le point. Pour David, donc, Philippe Christian Val, Lucas, il vous reste.
J'ai un arrière droit, si je le trouve, je ne sais pas s'il joue à titulaire.
Mais il y en a un qui peut valoir 2-3 points.
Je vois
il y a un central.
Je vois qui c'est, celui qui peut valoir 2-3 points.
Lucas. Et puis, il y a un latéral très connu, il y a un milieu de terrain défensif très connu, un autre un peu moins connu. Les attaquants, vous les avez tous dit, puisqu'il y avait Ikpeba aussi, Benarbia. Un défenseur qui a joué, on commence avec celui-là.
Lilian Martin, il joue pas Lilian Martin.
Lilian Martin. Non, ne triche pas, Benjamin, ne triche pas.
Non.
Un défenseur, vous pouvez jouer tous les trois. Un défenseur qui a joué également à Caen et à Marseille.
Franck Dumas,
le point pour David.
Tu l'as dit? Lucas aussi.
Lucas, un.
Tu as fini en prison, Franck Dumas?
Oui. Lucas?
C'est pas
Non. Un latéral?
Gauche, donc.
International?
Un latéral gauche.
International qui a joué en Allemagne.
Sagnol,
bien sûr.
Milieu défensif. Je crois qu'il était écossais, je crois.
Ah, John Collins.
Bien sûr. Bon, j'arrête de compter
super
les points.
Pied gauche.
Qui est remplacé par, et c'est le dernier, il est remplacé par. Un ailier droit, international, qui est à Barcelone, à Lyon.
Julie.
Bon. C'est l'acteur de David, hein. Je suis désolé, messieurs, hein. je vous avais prévenu. On enchaîne.
Radio J.
Jusqu'à 22h, c'est Classico.
Radio J.
Steve Nadjar.
Messieurs, on va terminer très rapidement sur Paris Saint-Germain puisque nous sommes particulièrement en retard. Je voudrais simplement qu'on parle de la fin de la saison pour le Paris Saint-Germain, la lumière du match d'hier. Comment vous avez trouvé le match d'ailleurs hier? En quelques mots.
Bah, rien, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Ils sont en décompression, c'est plutôt classique, voilà. Non mais la saison est terminée, voilà, il reste la Coupe de France.
Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur la manière dont les joueurs parisiens vont préparer cette finale de Coupe de France
qui se jouera
à Villeneuve-d'Ascq?
Je sais pas, j'espère pas. J'espère que les mecs sont pas en vacances, que les mecs sont pas. Enfin, je sais pas. C'était un peu triste quand même hier ce qui s'est passé. Et pour le coup, j'ai l'impression que si t'enlèves Mbappé, il y avait pas grand monde. Enfin, beaucoup de gens étaient un peu aux fraises quand même.
C'est ça un peu ce qui alerte un petit peu, c'est que lorsque les titulaires ne sont pas là, l'équipe B.
Ah, c'est même
pas,
C, hier.
Voire C, en tout cas des très jeunes, n'est pas au niveau. Contre Toulouse, qui n'est pas non plus un grand d'Europe.
Alors oui, alors c'est pas un grand d'Europe, mais ils font une très bonne deuxième partie de saison. Je pense que l'arrivée de Yang Bo, qui est un très bon joueur, qui est formé à Rennes, qui était au Cercle de Bruges, qui a vraiment dynamisé. Je pense qu'ils ont des bons joueurs. Ils ont Tadej Zalinga. Je pense que Marlon Martins-Novel commence à imposer sa patte. Mais oui, non, c'est un match que le PSG devait gagner. Mais je pense qu'entre le turnover, la charge émotionnelle, le changement de gardien, un adversaire en forme, la Coupe de France, la finale de la Coupe de France à jouer, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'ingrédients pour un résultat relativement surprenant.
On a beaucoup parlé des attaquants depuis le début de l'émission. Sur le plan défensif, ce qu'on a vu est assez inquiétant.
Bah, Barcola et Skriniar, de toute façon, on n'a pas attendu hier pour savoir que c'est pas au niveau même de la Ligue 1. Hein. Donc,
c'est l'une des grandes déceptions de la saison.
Bah, surtout
avec le mercato.
Bah, c'est un joueur en fait qui est performant en bloc médian, bloc bas, et qui a été recruté pour jouer avec Lucien Riquet, qui veut avoir un bloc haut, récupérer rapidement et relancer. Donc, je pense que c'est un recrutement d'opportunité qui s'est avéré ne pas du tout en fait fitter dans le schéma de Lucien Riquet.
On va écouter la réaction de Ousmane Dembélé juste après le match.
C'est toujours rageant, même si on est champion de perdre comme ça devant son public et lors du dernier match. Et je pense que même si on est champion, on doit se remettre en question de cette défaite. On doit pas perdre comme ça à domicile, même si comme je l'ai dit, on est champion. Voilà, il nous reste la finale de la coupe, il nous reste Nice, un gros du championnat à jouer. Et quoi qu'il arrive, que ça soit match amical ou match de championnat ou finale de Champions League, on doit se donner à 100% à chaque match et montrer un bon visage du Paris Saint-Germain.
Lucas, est-ce que tu penses, donc c'est le Dembélé qui était au micro de Prime Video, est-ce que tu penses que Dembélé pourrait être le joueur autour duquel va être construit l'effectif la saison prochaine par le Paris Saint-Germain?
Je ne sais pas, j'aimerais bien que Dembélé soit comme tout le monde dans cette équipe et progresse en fait. Moi j'ai l'impression que il y a un truc un peu, tout le monde a tressé une couronne de laurier à Luis Enrique cette année. Je fais pas partie de ces gens-là. Et je pense que la marge de progression de toute cette équipe est énorme, en fait.
Son repositionnement dans l'axe, t'as paru un choix.
Parce que c'est le genre de joueur qui peut te faire frissonner, qui fait des différences, qui a besoin de liberté. Enfin, tout ce qu'on dit toujours sur lui, et c'est vrai, mais, je sais pas, le foot professionnel est une affaire de professionnel. Et à un moment donné, on n'est pas dans une cour de récré. Donc, quand tu sois tout seul devant le but et que tu frappes, tu marques en fait. Il manque de réalisme en fait. Je suis pas un buté de statistiques, mais t'as quand même 2-3 trucs qui semblent inratables, qui ratent. Et à un moment donné, c'est du foot pro quoi. Donc faut plus les rater ces trucs-là si tu veux franchir un palier. Enfin c'est ce que dit Mbappé. Hein, quand t'es excellent, tu tires pas sur le poteau, tu tires dedans en fait. Donc Dembélé fait partie de ces gens-là. C'est super hein, les joueurs highlights. Mais à un moment donné, fait des passes décisives et puis marque des buts. Enfin moi je suis un peu de ce truc-là. C'est un peu débile ce que je dis, mais je pense ça profondément quoi.
David et Benjamin
j'espère que c'est un joueur qui va prendre plus de responsabilités l'année prochaine. C'est un joueur qui est français, francilien, qu'on attendait à Paris depuis un moment, qui je trouve a fait une saison franchement pareil, on lui a beaucoup beaucoup tapé dessus. C'est quand même un joueur qui côté droit crée des décalages, dès qu'il touche le ballon il peut se passer quelque chose. Alors après oui, il y a du déchet, il y a eu des buts quand même décisifs cette année, aller-retour à Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, c'est quand même pas rien.
Non, c'est pas rien.
Donc il progresse quand même, je trouve, pour reprendre ton terme, et j'espère que là, avec le départ de Mbappé, encore une fois, étant francilien, étant attendu à Paris depuis un moment, va prendre toute sa place, j'espère. Et quand il parle, d'ailleurs, il est assez, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui est intelligent, qui a du recul sur les choses. J'espère qu'il va prendre en confiance et en place.
David?
Ah, j'espère qu'il va pas du tout, en fait, prendre en responsabilité. J'espère que ça va rester le soliste génial et le génial qu'il sait être.
D'accord,
mais il faut absolument pas le transformer. C'est un super équipier.
C'est un joueur ultra déstabilisant. C'est un joueur, comme tu l'as très justement dit, à qui on doit laisser beaucoup de liberté. Non. Pas du tout le responsabiliser. Le responsabiliser dans sa performance individuelle, dans sa façon de se fondre dans le collectif, mais non. Pas de responsabilité managériale, pas de brassard. Pas de projet construit autour de lui.
Électro-libre, il peut exactement un peu plus s'affirmer dans le club parisien comme un leader, tu vois. C'est ça que je veux dire, rien de plus.
Même pas comme un leader. Qui reste le facteur X génial qu'il a su être.
Dans cette position
ou dans une autre. Mais vraiment, c'est un joueur qui doit garder qui est ultra déstabilisant. Qui finit mal, mais qui crée énormément. D'ailleurs, c'est le meilleur passeur du championnat. Je crois que c'est au niveau, je sais pas non plus, hein, pour reprendre ton expression, un buté de stats. Mais je crois que celui qui crée le plus d'occasions de but dans le championnat. Donc, plaçons-le près du but, que ce soit au centre ou dans l'axe, donnons-lui la liberté. Mais non, pas de création autour, pas de poids supplémentaire
sur les épaules. Mais autour de personne, hein, pour reprendre ton expression, créer autour de lui, ne créons pas le club autour de quelqu'un, continuons à construire le collectif.
Un des leaders techniques, un des leaders,
je répète ce que je viens de dire.
Lucas, est-ce que, pour revenir au nouveau numéro de SoFoot consacré à ces footballeurs originaires d'Île-de-France, est-ce qu'il est difficile pour un joueur francilien de s'imposer dans le grand club de la capitale, à savoir le Paris Saint-Germain, qu'il s'agit de Mbappé, de Dembélé, ou dans le passé, de Peter Luxin, par exemple.
Peter Luxin n'est pas
marseillais.
Il est marseillais.
Là, je pensais à Peter Luxin, à Anelka.
Historiquement, oui, ça a été compliqué. Ça allait un peu moins aujourd'hui, puisque le PSG se rend compte aujourd'hui que il est assis sur un bassin de population qui est monstrueux et qui est donc le plus grand. Le grand producteur mondial de footballeurs. Ouais. Donc ça a été, le PSG a longtemps eu du mal, quoi, à faire confiance à cet Titi, en disant ils sont pas prêts, en disant ci, en disant ça. Je pense qu'il est temps, enfin c'est ce que le PSG en fait assez régulièrement essaye de placer des franciliens aussi pour que le bassin de population s'identifie à son club. Moi j'espère.
Est-ce que vous rappelez qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont d'abord passés par la Bundesliga?
Ouais.
Avant d'arriver en Ligue 1.
En fait, il y en a trop, hein, de toute façon. En fait, le PSG pourrait faire comme Bilbao le PSG pourrait, sans trop de difficultés, jouer avec que des franciliens et avoir une équipe ultra compétitive. Il se trouve que Paris étant Paris, on a besoin de stars. Enfin, il faut un équilibre. C'est Alain Cézac qui dit ça dans ce numéro. En fait, pour que le PSG fonctionne, il faut un tiers de mecs formés au club, un tiers de très bons joueurs qui soient pas formés au club et un tiers de stars. Grosso modo, c'est un peu l'ingrédient qui donne.
C'est l'ADN historique du PSG, d'ailleurs.
Ouais, c'est un peu l'ADN historique du PSG. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Après, c'est compliqué, hein. On voit Kolo Muani cette année. Donc lui, il est pas formé au club, etc. Mais il revient là. Donc il dit, t'as l'impression que c'est trop de pression pour lui d'être là. Alors je sais pas si c'est le fait qu'on ait mis 90 millions sur son dos, je sais pas si c'est les expectatives liées à son entrée en finale de Coupe du Monde, je sais pas si c'est sa fin de saison à Francfort, mais j'ai l'impression qu'il s'est complètement évaporé dans la nature. Je sais pas s'il a besoin d'aller voir un psy, s'il a besoin de bosser, si si ou si ça, mais est-ce qu'il y a un truc aussi, c'est qu'effectivement il y a une pression autour de ce club qui est peut-être équivalente à Marseille, mais qu'on n'a pas dans d'autres clubs français, en fait. Donc c'est compliqué, je pense, de gérer tout ça. Il y a un espèce d'équilibre qui peut détruire aussi des gens. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Ça se trouve on va voir Ekitike, sans doute que l'an prochain il va cartonner parce qu'il y avait trop de trucs autour de lui, trop d'attentes. Enfin, c'est un club aussi, le PSG, un club qui peut bouffer des joueurs, quoi, qui peut te bouffer le cerveau, qui peut te bouffer le mental et qui peut te faire perdre tous tes moyens. C'est ça qui est super compliqué aussi.
Cette touch Île-de-France, on la retrouve et l'équipe de France en profite aussi.
L'équipe de France. On parlait tout à l'heure hors antenne de Thierry Tussaud. En 1984, il y avait un francilien dans l'équipe de France championne d'Europe. C'était ce bon vieux Thierry Tussaud. Aujourd'hui,
vous consacrez un article.
Ouais, auquel justement, on est allé le voir. Ça, c'est quoi d'être le seul francilien de l'époque?
Et en plus, c'est un francilien? Pas des grands ensembles, c'est un francilien de l'Île-de-France un peu rurale.
Pavillon, c'est un mec de Noisy-le-Sec, je crois.
Exactement.
Ouais, un mec de Pavillon de Noisy-le-Sec.
Mais Noisy-le-Sec, il y a 30 ans.
Ouais, même plus.
Même plus, ouais. Donc
aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France sont franciliens, en fait. Hein. J'ai plus le chiffre en tête, mais sur la dernière Coupe du Monde, on pourrait retrouver facilement, mais il y en a une bonne dizaine, quoi. Donc ouais, l'Île-de-France, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Il y a des franciliens absolument partout, quoi. Donc factuellement,
et ça a un impact sur la gestion des champs, des joueurs qui se connaissent, qui sont peut-être fréquentés dans les centres de formation, notamment Clairefontaine.
Bah ça, ils sont l'Île-de-France est très grand aussi, donc ils se connaissent pas tous, ils ont pas tous été formés dans les mêmes clubs, ils ont peut-être joué ensemble, ils sont pas tous de la même génération. Ça, je sais pas dans quelle mesure ça a un impact sur le jeu de l'équipe de France ou sur ou pas quoi. Mais en tout cas, oui, il y a une majorité, c'est certain.
David, c'est le plus grand laboratoire de joueurs professionnels du monde, l'Île-de-France.
Absolument. Oui. Juste après Londres, enfin South London.
Bah, devant maintenant.
Enfin juste à vous, enfin avant Londres et avant
Sao Paulo.
Mais hier, c'est ça que j'étais en train de vérifier. Arsenal, Manchester, t'as deux joueurs en fait qui sont issus de l'Île-de-France. T'as Saliba et Kambouala d'un côté. À la Cannes, c'était encore plus frappant. Une grande partie. Maintenant que la binationalité des effectifs de la CAN qui sont composés de joueurs qui ont grandi en Île-de-France. Et là où c'est très très intéressant ce que tu disais, c'est que les Titi, ça doit plus être une variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'on doit regarder ce réservoir et se dire si on a personne sur cette tranche d'âge à côté, là on va recruter. Mais priorité à notre identité, priorité aux joueurs franciliens et priorité à nos Titi.
Arsenal. Ça n'a pas toujours marché au Paris Saint-Germain. Au début des années 2000, on parlait de Dalma, Luxin, Anelka surtout. Avec Dembélé.
Mais là, ils ont eu. Et c'est par négligence que ces joueurs sont partis. Et c'est même pas forcément des grands joueurs, mais. Faire jouer, aligner des joueurs de ton centre, non seulement ça te donne une identité, mais en plus, financièrement, ça te permet de pas recruter de dépenser de l'argent pour des remplaçants. Il y a eu du Nkunku, il y a eu du Kingsley Coman, il y a eu du Adrien Rabiot, il y a eu du Moussa Diaby, il y a eu du Alphonse Airola, Mike Maignan, Danaxel Zagadou. C'est des joueurs qui auraient pu s'inscrire dans la rotation. Tous ces joueurs-là, ils auraient pu s'inscrire dans la rotation.
Kouassi qui a disparu aussi d'ailleurs.
Tanguy Kouassi, mais qu'on aurait pu garder. En troisième, quatrième défenseur, au lieu d'aller chercher
Skriniar. Mais ils ne sont pas trop friables, trop jeunes pour affronter la pression du Paris Saint-Germain.
Mais c'est quoi la pression?
C'est peut-être l'exemple
mais
de.
Mais c'est quoi la pression du Paris Saint-Germain? Les mecs, attends, au Bayern, il n'y a pas la pression. À Séville, il n'y a pas la pression. À Arsenal, il n'y a pas la pression.
Mais c'est sûr
à Dortmund, il n'y a pas la pression.
C'est sûr que quand tu viens de là, bah, c'est différent. T'as tous tes potes, toute ta famille qui sont dans le stade. Il y a des attentes très particulières.
Le seul souci, c'est maintenant, malheureusement, et ça reste un épisode très rare, c'est l'entourage et les histoires de Pogba, de Kanté qu'on a pu voir. Et quand on est prophète en son pays, on est peut-être portée de main de tentations de personnes qui sont pas très bien intentionnées. Donc ça, je peux l'entendre.
Ce qui me fait penser à ce que tu dis à Areola qui, au PSG, il a eu le parcours qu'on connaît et en Angleterre, il s'éclate. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs gardiens du championnat anglais.
Mais à Paris,
c'était impossible pour lui. Il est parti, il est revenu.
Le point commun entre Londres et la banlieue parisienne, c'est ce que à Londres ils appellent le cage football, c'est-à-dire que c'est le football de rue. Et c'est ça qui est magnifique en fait dans votre numéro, c'est que on revient aux racines originelles du football, à la débrouille, à la liberté, à l'esprit d'initiative, à l'esprit de fraternité. Et moi, honnêtement, votre numéro, je l'ai trouvé très émouvant parce que c'est un grand paradoxe. On voit que c'est des gens, c'est ces jeunes qui jouent au foot en Île-de-France. Ils ne jouent que pour le plaisir, mais pour atteindre, en fait, un milieu qui est complètement dépourvu de plaisir, qui est ultra professionnalisé. Mais vous avez, et je vais vous faire vraiment un compliment, vous avez magnifiquement décrit le vivier parisien. C'est dans toutes ses facettes, c'est absolument, il est remarquable, votre numéro.
Allez, on enchaîne.
Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar.
Messieurs, on arrive quasiment à la fin de cette émission et on va terminer avec un jeu.
Bah oui.
Comme d'hab, avec le quiz, on avait prévu quelques autres.
Évidemment.
Il y a un autre quiz en tout cas, mais on va le zapper. Donc après la victoire initiale de notre ami David, on enchaîne avec la première question. Alors je retrouve mes fiches, messieurs. Quel ancien international français est actionnaire du club
Thierry
de Côme?
Thierry Henry.
Premier point pour Benji. Qui fait partie du staff?
Ça se fait
à Gaspard.
Joué. Louis Cédric clôture sa première saison avec le Paris Saint-Germain. Il a remporté 62% de ses 50 matchs officiels cette saison. Quel est le seul entraîneur parisien à avoir fait moins bien que lui depuis l'arrivée des Qataris?
Moins bien
que lui.
Pochettino?
Non.
Le seul à avoir fait
Tourelle.
moins bien que lui.
Galtier?
Non. Tourelle?
Non. Emery?
Blanc?
Comboiré? Ancelotti?
Comboiré, si tu dis tout. Comboiré, ok. Combien de trophées ont été rapportés par les Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de QSI?
En tout?
Combien?
Championnat, coupe et tout?
Tout.
24.
24.
24, c'est beaucoup.
J'ai aucune idée.
Attends, ça fait 10
ans. Non, mais tu comptes, les trophées des champions. Les...
Ah, tu comptes tout ça?
Bah ouais.
Ah ouais, alors ouais, alors ouais. Ouais
c'est beaucoup plus, hein.
Ah ouais,
Lucas, c'est beaucoup plus.
35, ah,
beaucoup
plus. 30, 30, 35. 33, 33. Ouais, je sais pas, 30.
32. Le point pour Lucas. Aubameyang a marqué pour le moment 29 buts avec l'OM. Seuls 3 joueurs marseillais ont fait mieux ou aussi bien que lui lors de leur première saison sur la Canebière. Lesquels?
Drogba.
Drogba, ouais.
Drogba, ouais.
Mieux lors de leur première saison?
Ouais.
Adonyang. Gomis?
Non. Gomis, non.
Ribéry?
Non.
Ah bah non. Lors de leur première saison? Attends, dans l'histoire du club?
Ouais.
Skoblar?
Skoblar, je l'ai pas là. Non, c'est pas la première. Soit c'était la première. Je l'ai pas aussi, non.
Mido, non?
Mido, non.
Non,
jamais.
Non.
Alors, on est dans